Amos, chapitre 6, versets 1 à 7. Amos, chapitre 6, versets 1 à 7, au nom de Jésus. Malheur à vous qui vivez tranquillement à Sion et qui vous croyez en sécurité sur la colline de Samarie. Vous êtes, paraît-il, l'élite de la première des nations. Et dire que les Israélites se tournent vers des gens comme vous. Rendez-vous plutôt à Calné pour voir ce qui s'est passé. Ensuite, allez de là jusqu'à Hamath, la grande ville. Puis descendez à Gath, chez les Philistins. Vous le constaterez. Vous ne valez pas mieux que ces royaumes-là, même si leur territoire est plus petit que le vôtre. Vous cherchez à reculer le jour du malheur. En réalité, vous rapprochez le règne de la violence. Vous êtes allongés sur des lits décorés d'ivoire, étendus sur vos divans pour déguster de l'agneau et manger du veau gras. Vous chantez à tue-tête au son de la harpe pour imiter David. Vous créez de nouveaux instruments de musique. Vous buvez le vin dans de larges coupes et vous vous parfumez aux huiles les plus fines. Mais vous ne vous affligez pas du désastre qui menace les tribus de Joseph. C'est pourquoi j'annonce maintenant que vous serez au premier rang de ceux que l'on déportera. Fini la fête pour les fainéants. Amen. Notre saga sur l'argent et la richesse continue encore aujourd'hui. Dimanche dernier, nous avions parlé de Mammon, le dieu de l'argent. Et aujourd'hui, nous tombons sur un personnage emblématique dans tout l'Ancien Testament qui aborde sans complexe l'injustice sociale dans l'état du nord d'Israël, c'est-à-dire Israël a été coupé en deux, le sud Juda et le nord Israël, après Salomon. Amos, c'est un personnage qui n'a pas froid aux yeux lorsqu'il dénonce l'injustice sociale dans le royaume de Jéroboam II. Il ne se laisse pas impressionner par la classe dirigeante, lorsqu'il dit par exemple qu'il n'est pas prophète ni fils de prophète. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il ne faisait pas partie des groupes de prophètes de la cour royale qui côtoyaient le roi et les nobles. C'était presque un extraterrestre, si on peut le dire. C'était quelqu'un qui vient de nulle part. Et qui surgit, et qui se dit, voilà, je suis l'envoyé de Dieu, et voilà ce qu'il vous annonce. En fait, c'est un simple berger, un paysan. Et cela nous fait un peu penser à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui vivait aussi dans le désert, et qui a prêché dans le désert, mais qui a écouté son message? Il a été craint par tout le monde, même si c'était qu'un petit prophète, y compris le roi Hérode qui tremblait dans son palais. À chaque fois que Jean-Baptiste ouvrait sa bouche, il tremblait. Et vous voyez le contraste, le petit Jean-Baptiste qui vivait de peu de choses, mais qui faisait trembler les royaumes. Les pharisiens aussi avaient peur de lui, ils venaient pour le consulter. Qu'est-ce que le Seigneur pense de nous? Les militaires venez aussi pour écouter Jean-Baptiste. Et c'était un peu dans cette image-là qu'Amos aussi est venu pour annoncer la parole de Dieu. Et en lisant tout son livre, si vous avez l'occasion de lire à la maison, je trouve que c'est un livre qui est vraiment approprié à notre époque d'aujourd'hui. Même si c'est un prophète de l'Ancien Testament, il semble que c'est un prophète qui était en colère. Il avait une Il y avait de la colère contre le système. le système qui était mis en place. Et pourquoi tant de colère? Cette colère, il faut savoir qu'Amos vivait, comme je viens de le dire tout à l'heure, il vivait à l'époque de Jéroboam II, où le Nord avait connu la prospérité. Le royaume du Nord était très riche par rapport au royaume du Sud. Mais cette prospérité ne profitait pas à tout le monde. Et il avait constaté qu'il y avait tellement d'écart entre les riches et les pauvres dans ce royaume. Et en plus de ça, il y a encore un problème de taille. Il vient du sud d'Israël, c'est-à-dire de Juda. Mais il a été envoyé pour le nord, pour annoncer la sanction de l'Éternel pour ceux du nord. Donc, vous pouvez déjà imaginer que la mission est vouée à l'échec dès le départ. Si c'était quelqu'un qui vient du nord, ça pourrait aller. Mais si c'est quelqu'un qui vient du sud, qui va nous donner des leçons chez nous, dans le royaume du nord, alors les gens ne vont pas l'écouter. Déjà, le contenu de son message est un message anti-système, dénonçant l'injustice. Mais c'est encore un frère ennemi. Alors on peut penser que le message est perdu d'avance et il ne sera pas accueilli. Mais pourquoi alors l'Éternel persiste à l'envoyer dans ce royaume du Nord? Tout comme Jean-Baptiste qui a prêché dans le désert. Mais les gens venaient et se précipitaient pour aller dans le désert pour écouter ce prophète qui était mal habillé, ce prophète qui mangeait si mal, ce prophète qui était, on va dire, très très modeste. Et là aussi, j'ai pris une réflexion, est-ce que finalement, nous aussi, nous ne sommes pas en train de prêcher dans le désert, comme Jean-Baptiste, comme Amos? Qui nous écouterait en ce moment en parlant de ce genre de thème? Qui? Il y avait un témoignage que j'ai entendu une fois, un pasteur, un prédicateur, qui a été muté dans une paroisse où il n'y avait personne. Et il souffrait de cela parce que, voyez-vous, il ouvre la porte de l'église, du temple, il n'y a personne. Tous les dimanches, personne, aucun membre. Mais chaque dimanche, il ouvrait quand même la porte du temple. Comme s'il y aura du monde qui va venir. Il sonnait la cloche. Il a allumé les bougies. Et il faisait le culte en entier, de A à Z. Sans aucune personne qui était présent au culte. Et les gens qui passaient se moquaient de lui. Il est fou ce pasteur. Pourquoi il dépense du temps et d'énergie? Pourtant il n'y a personne qui l'écoute. Même pas une seule personne. Les gens se moquaient de lui. Oui, c'est un fou de Dieu. Mais un jour, un monsieur est venu vers lui un dimanche, un premier paroissien qui entrait dans la paroisse. Et le pasteur lui a posé la question, « Comment avez-vous su qu'il y a culte ici ?» Et le monsieur lui a répondu qu'un jour, il était dehors, en passant, tout près du temple, et il entendait tous les chants que le pasteur chantait tout seul. Il a entendu toutes ses prédications, et ça l'a touché. Un passant, qui était là par hasard, selon notre langage humain. Comme quoi, chers frères et sœurs, ne soyez pas fatigués. Prêchez avec insistance et ne vous découragez pas, car un jour, la graine que vous avez laissée tomber ici et là donnera ses fruits. Peut-être dans le métro, peut-être dans le bus, peut-être à l'école, peut-être avec vos voisins. Oui, ça peut donner des fruits, sans le savoir. Je reviens à mon texte tout à l'heure. Quel est alors ce message qu'Amos dénonce dans ce texte? C'est ce décalage, comme je viens de le dire, ce décalage scandaleux entre les riches et les pauvres. Mais il faut bien souligner, il ne lutte pas contre l'existence des différentes couches sociales. Mais ce qu'il dénonce, c'est le fossé scandaleux qu'il y avait entre les riches et les pauvres de son époque. Regardez les versets 4 et 5. Vous êtes allongés sur des lits décorés d'ivoire, étendus sur vos divans pour déguster de l'agneau et manger du veau gras. Vous chantez à tue-tête au son de la harpe pour imiter David. Vous créez de nouveaux instruments de musique. Comment Amos décrit la situation? Les personnes influentes du royaume, quelques groupes d'individus, sont allongés sur des lits d'ivoire. Vous voyez déjà la qualité de la matière. Et ensuite, il dit, vous êtes vautrés sur vos divans. Même l'expression utilisée, vautrés sur leur divan, c'est-à-dire s'étendre avec abandon. Ils n'arrivent plus à se relever, tellement ils étaient plus que rassasiés. Et ça, il faut le savoir que avant, quand on allait assister à des banquets, il y avait tellement de nourriture que même les invités n'ont pas pu goûter toutes les différentes sortes de nourriture présentées sur la table. Et comment on faisait? Alors on sortait dehors pour vomir, afin de pouvoir en manger encore. Et c'est ça que le prophète dénonce ici. Vous êtes vautrés dans vos divans. Et ce n'est pas fini. Regardez le type de nourriture qu'ils mangent. Des jeunes béliers et des veaux choisis dans les étables, la première qualité. Pourtant, autour d'eux, il n'y avait que le désastre. C'est-à-dire que leur luxe a un lien avec la violence et la corruption. Et j'ai encore poussé un peu plus loin, j'ai regardé un document, et là il y a des fouilles archéologiques qui vont aussi dans ce sens et confirment qu'au temps de Jéroboam II, l'affairisme a gagné l'ensemble des classes dirigeantes. Et les paysans, pour payer leurs dettes au temps de Jéroboam II, doivent se défaire de leur patrimoine. Et quand leur dette arrive à un niveau impossible, ils en viennent à vendre leurs propres enfants au temps de Jéroboam. Ils étaient obligés de vendre leurs enfants. Puis, si ça n'est pas encore suffisant, alors là, ils devront se vendre eux-mêmes comme esclaves. Or, certains n'arrivent même plus à se relever de leur divan. Voilà le contraste. Oui, ce royaume était un royaume prospère économiquement, mais la population était si pauvre. Je me rappelle bien la première fois en 1988, quand j'ai fait mon premier voyage en France, qu'on atterrit à Paris. Avant d'atterrir à Paris, c'était dans la nuit. C'est toujours impressionnant de voir la ville lumière, Paris, la ville lumière. En plus, j'étais enfant, alors là, j'étais vraiment comme un sauvage qui vient de la forêt et qui découvre Paris. Mais quand on est une fois en bas et qu'on circule dans certains quartiers à Paris, on découvre vraiment la réalité, la pauvreté au pied des immenses gratte-ciels. Et c'est comme ça partout dans le monde. Le paraître qui cache la misère. Et cela nous fait rappeler le songe du roi Nabucodonosor. Lorsque ce dernier avait fait un songe, qu'il a vu une immense statue à la tête d'or, le torse et les bras en argent, les cuisses de bronze et aux jambes de fer. Jusque-là, ça va. Mais les pieds sont faits d'argile et de fer. Et c'est par cette histoire que nous avons eu cette expression qu'on utilise tous les jours, un colosse aux pieds d'argile. C'est à cause de cette histoire de Nabucodonosor. Et c'est un peu cette image-là que je vois et que nous constatons à travers la vie du monde, la quête de la prospérité effrénée, chercher sans cesse le profit, être de plus en plus performant dans les technologies. Mais finalement, la société n'a jamais été si fragile qu'aujourd'hui. Avec toute cette puissance, rien que dans les nouvelles, 500 millions de comptes Yahoo ont été piratés, paraît-il. Oui, des informations plus vite, plus rapides, mais plus vulnérables. Voilà le colosse au pied d'argile, voilà le monde. On peut se dire, ce que le pasteur est en train de dire ne me concerne pas, peut-être. Vous disiez, moi, c'est pas moi ça, moi je vis humblement. Je suis pas le riche qui est vautré dans son divan. C'est pour les riches, cette prédication. Ça ne me concerne pas. Attention. Il y a un verset qu'il ne faut pas oublier. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 17, l'épître de Jean chapitre 3 verset 17 qui dit « Si quelqu'un, ayant largement de quoi vivre, voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu ?» Alors là, je suis concerné aussi. Dieu ne nous demande pas qu'on se sacrifie pour les autres, c'est pas ça. Il ne nous demande pas de devenir des mères Teresa. Ce que Jean dit ici est très clair. Ayant largement de quoi vivre, après cela, regarde ton frère qui est dans le besoin. Vous avez entendu tout à l'heure dans Luc l'histoire de Lazare et du richissime. Le tableau montre aussi ce contraste saisissant. Lazare assis par terre avec les chiens, attendant les miettes qui tombent de la table du riche, et se bat avec les chiens pour pouvoir manger. Et tandis que le riche, qui se gave avec ses amis sur la table, sans aucune considération, il voyait Lazare comme un chien. C'est vrai que nous ne pourrons pas faire disparaître la misère sur cette terre. Personne ne peut disparaître la misère. Et ce que nous faisons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. On essaie d'améliorer les choses par la diaconie, par l'entraide. Oui, c'est vrai que c'est rien face à la misère. Mais j'ai bien aimé cette phrase de Mère Teresa que j'ai découvert pendant sa canonisation. Et je termine sur cette phrase. Voilà ce qu'elle avait dit. C'est vrai que ce que nous réalisons n'est qu'une goutte d'eau par rapport à l'océan. Mais sans cette petite goutte, il manquerait quelque chose à l'océan. Amen.